여기 있어 불러봐.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, saviez-vous que Kafka avait une âme de globe-trotter? Non? Eh bien, figurez-vous que peu de personnes le savent. D'ailleurs, l'image de Kafka est tellement associée à celle de l'écrivain maladif courant les sanatoriums qu'il est difficile de se l'imaginer sillonnant l'Europe. Eh bien non, Kafka ne s'enfermait pas uniquement dans l'écriture, en pessimiste buté et reclus du monde. Kafka est bel et bien sorti de sa Prague natale, et plutôt deux fois qu'une. Pas forcément le baluchon à l'épaule, mais il est parti à la découverte de plusieurs pays d'Europe. Et c'est sur les traces de ses voyages que part régulièrement le photographe tchèque Jan Jendra. Commencé en 2002, son périple à la recherche des lieux visités par Kafka n'est de loin pas encore fini, mais arrive peu à peu à son terme. Après avoir terminé un projet à cette époque, Jan Jendra s'est dit qu'il aimerait enfin se mettre à photographier Prague. Il lui faut alors, cependant, trouver un fil conducteur, et Kafka lui apparaît comme un thème intéressant. Mais par où le saisir ? Car évidemment, Kafka et Prague, un thème rabâché et remâché. D'où l'idée de s'attaquer en effet à cet écrivain, mais de le traiter un peu autrement.
J'étais surpris de voir que les choses qui ont été faites autour de Kafka, au niveau photographique, n'étaient liées qu'à Prague. Puis j'ai lu de nombreux ouvrages et j'ai découvert qu'il s'était rendu dans de nombreux endroits en Europe. Je me suis dit que ce serait une excellente idée de capter ces lieux.
Et Jan Jendra collabore avec une jeune femme, Julita Matiashova, qui, enthousiasmée par le projet Les Voyages de Franzka, s'est plongée à la découverte de cette autre facette de l'écrivain pragois. Et elle accompagne le travail du photographe en rédigeant des textes et en animant un blog.
Bien sûr, c'est un joli conte de fées qu'on raconte aux gens. Pour eux, Kafka égale Prague. Ils se l'imaginent comme un sombre personnage qui ne vivait que pour son écriture, qui n'était pas intéressé par son travail. Nous essayons de transformer ce mythe. Mais qui a envie de le découvrir plus, qui ne lit pas uniquement la métamorphose ou les lettres au père, mais se penche sur ses carnets de voyage qu'il a écrits en parallèle avec Max Brod, découvrira qu'il a sillonné l'Europe. Il a découvert de nombreux lieux avec son Baedeker.
Et justement, Kafka se retrouve dans un lieu auquel on l'associe volontiers.
Avec Max Brod, ils sont allés de sanatorium en sanatorium. On peut dire qu'à l'époque, les sanatoriums étaient plutôt un lieu de style de vie saine. Ce n'étaient pas des hôpitaux. Tout le monde s'imagine que Kafka est né et qu'il a tout de suite été malade. Non, ce style de vie saine l'intéressait vraiment. C'est pour cela qu'il se rendait dans les sanatoriums aussi.
Sanatorium, voyage en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie, mais aussi en Suisse, en Italie, qu'il affectionne particulièrement, et découvre, armé de récits de Goethe sur le pays, Kafka a aussi posé ses bagages dans la ville lumière.
Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il ou c'est moi, Menon, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon.
Oui, Franz Kafka s'est même rendu deux fois à Paris. Une première fois en 1910, un séjour écourté, faute d'une maladie qui l'oblige à rentrer à Prague. La seconde fois sera la bonne. En octobre 1911, il y retourne avec son éternel compagnon de voyage Max Brod et déniche un petit hôtel qui certes ne paye pas de mine mais se trouve en plein cœur de la bouillonnante capitale, rue de Rivoli, à deux pas du Louvre, qu'il visite à portée de main de tout ce qu'il ne faut pas manquer. Et ce que Kafka ne veut surtout pas manquer, ce sont notamment des lieux qu'aimait ou dont a parlé Flaubert. Il découvre donc Paris, l'éducation sentimentale sous le bras. Le défi pour Jan Jendra était de savoir s'il arriverait à retrouver ses hôtels où il a séjourné. Abandonné aujourd'hui, il fait partie de tout le bloc de magasins de la Samaritaine et l'équipe autour du photographe doit remuer ciel et terre pour trouver quelqu'un qui veut bien les faire pénétrer dans l'enceinte, pour trouver quelqu'un qui pourrait leur permettre de visiter les locaux malgré tout. Après un parcours du combattant où l'adjectif kafkaïen ne serait pas usurpé, le photographe et ses comparses réussissent à entrer dans l'ancien hôtel. Les pièces sont vides, devenues essentiellement des bureaux, mais l'agencement n'a guère changé depuis les années 1910. Et les lieux que visite Kafka sont aussi une façon de le découvrir au quotidien, d'avoir un aperçu de ses goûts et de ses intérêts. Où l'on découvre encore que Kafka aimait beaucoup nager, et à Paris s'est ainsi rendu au Grand Bain du Pont-Royal, ou qu'il aimait les films et en a vu dans un cinéma pâté, aujourd'hui disparu. Qu'il s'est encore rendu avec Brod au 7 rue de Hanovre, une adresse qui ne dit rien à personne aujourd'hui, mais qui abritait jadis une maison close. Lors d'un voyage en Italie en 1909, il assiste même à un show aérien. Jan Jendra et Judita Matyashova ont d'ailleurs pu retrouver le film tourné sur ce show aérien grâce à un ami kafkologue allemand, sans pour autant discerner le visage de Kafka dans la foule des personnes venues y assister. C'eût été trop beau. Et cet intérêt insoupçonné pour la technique ressort des écrits de Kafka qui évoquent notamment le métro de Paris. On écoute Jan Jendra.
Samozřejmě jsem hodně vkládal naději do...
J'avais évidemment mis mes espoirs dans une photo que j'avais imaginée auparavant. Dans ses journaux, Kafka décrit qu'il était allé jusqu'au terminus du métro Porte Dauphine. Il y a un tournant là-bas et il décrit comment les rames peuvent enfin tourner après un long trajet en ligne droite. Je me disais qu'on pourrait faire une photo intéressante pour aller avec cette phrase. Je n'ai pas encore trouvé comment et j'ai pris une photo d'un autre arrêt de métro qui est aussi intéressante. Sinon, ce qui m'a le plus amusé, c'est un panneau près du bois de Boulogne qu'il décrit aussi. Je n'ai compris son sens, ironique, qu'en le voyant. Kafka écrit qu'il s'agit d'un arrêté sur ce qui est possible et interdit de faire dans le bois, écrit tout petit. Or, la grille qui le protège est en fer très épais, et du coup, l'arrêté est presque illisible.
Si à Berlin ou à Vienne, les gens qu'ont rencontré les auteurs du projet avaient souvent connaissance de la présence de Kafka dans ces villes, il n'en va pas de même pour Paris. Mais parfois, Jan Jendra et Yulita Matyashova ont eu de bonnes surprises, comme le raconte celle-ci.
On a fait une rencontre intéressante en Italie. Kafka attendait un bateau qui lui ferait traverser un lac. Il décrit son attente sur la berge, ses pensées. Il écrit qu'il observait les roseaux autour du lac. Nous nous sommes dit que l'endroit devait encore exister. J'ai essayé de demander chez un bouquiniste du coin. Je me disais qu'ils auraient de vieilles cartes, des environs et d'époque. Et là, le propriétaire m'a complètement prise de court. Il m'a dit « Oui, oui, bien sûr, Kafka est venu ici. Il savait quand, comment y aller. »
Petr Polivka est le directeur du Centre tchèque à Bruxelles. Le centre organise l'exposition Les voyages de Franzka en collaboration avec la Maison de la littérature, Passaporta, où elle est présentée. Je lui ai bien entendu demandé s'il savait que Kafka avait autant voyagé. Ce à quoi il m'a répondu.
Non, Non, c'est ça, c'était certain pour moi parce que moi, à l'époque, j'ai lu tous les livres, tous les œuvres de Kafka, mais je ne savais rien. Maintenant, j'ai découvert qu'il a beaucoup voyagé, il a vécu, il a vu assez trop, peut-être. Et c'était vraiment certain pour moi.
L'exposition n'est pas le seul événement consacré à Kafka. Le 25 janvier se déroulera le Marathon Kafka, une journée qui succède au dernier marathon consacré, lui, à Georges Luis Borges, Petr Polivka.
Oui, on va commencer le midi, le 25, jusqu'à la minuit. Et il y a des personnages belges, des écrivains, des journalistes, des gens, même moi, je vais lire, qui vont lire l'œuvre de Kafka. C'est vraiment très, 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 très varié. Ce sont les lettres, les romans, tout, dans les différentes langues. Moi, par exemple, je vais lire en tchèque, les autres en français, en flamand, etc., etc.
Petite cerise sur le gâteau, annonce la maison littéraire bruxelloise, partenaire du Centre tchèque. À Kafka, qui comme Borges ne reçut jamais le prix Nobel de littérature, puisque ses œuvres ne furent publiées qu'après sa mort, sera décerné à titre posthume ce prix prestigieux. Tous ces événements se déroulent dans le cadre du festival Europalia, intitulé « Chemin de l'art en Europe ». On écoute Petr Polivka nous dire de quoi il s'agit.
L'Europalia, c'est le festival qui se déroule toute l'année à Bruxelles, d'habitude, c'est-à-dire un pays de l'Union européenne. Mais cette fois, pour 2007, c'était organisé pour tous les pays de l'Union européenne. Ça veut dire même pour la République tchèque. La République tchèque a participé avec, par exemple, l'Orchestre symphonique de Prague, avec quelques sculpteurs. Qui ont exposé son œuvre sur la place Saint-Gudule, etc., etc. Même Kafka aussi, dans le cadre de ce festival. C'est le plus grand événement culturel en Belgique toute l'année.
À noter que ses voyages de Kafka et surtout son passage à Paris n'a pas laissé indifférent une personnalité française de la critique littéraire, puisque le chroniqueur Pierre Assouline a publié dans le mensuel français Le Monde 2 et sur son blog un article sur l'exposition bruxelloise. Alors peut-être les Parisiens verront-ils dans les temps à venir les photos de Jan Jendra. En attendant, le photographe tchèque et la jeune femme qui l'aide dans son projet espèrent surtout préparer un livre qui rassemblerait les meilleures photos de ses expéditions sur les traces du célèbre écrivain.